Bonjour Monseigneur Mika.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Présence, notre radio chrétienne, où nous allons désormais vous retrouver chaque semaine dans cette chronique dans laquelle vous donnerez des nouvelles du diocèse aux auditeurs et puis quelquefois vous donnerez peut-être des orientations sur tel ou tel sujet. Voilà pour l'introduction. Alors aujourd'hui, pour cette première chronique, eh bien, nous allons parler de la rentrée. Il y a à peu près une dizaine de jours, environ 6 000 élèves ont fait leur rentrée scolaire dans les établissements catholiques des Hautes-Pyrénées, donc les écoles primaires, les écoles maternelles primaires, les collèges, les lycées. C'est important peut-être de profiter aujourd'hui pour évoquer la collaboration que vous, en tant qu'évêque, Monseigneur Mika, vous avez avec l'enseignement catholique et notamment avec les directions diocésaines de l'enseignement catholique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Eh bien, d'abord, je me réjouis en effet de cette prise de rendez-vous qui commence aujourd'hui à l'occasion de la rentrée. Le lien, c'est le même que dans le diocèse que dans les autres diocèses. L'enseignement catholique est un lieu privilégié parmi d'autres, mais privilégié de contact de l'Église avec la population de notre pays, puisque les parents, les élèves accueillis dans les écoles catholiques ne sont pas tous nécessairement des membres de notre communauté, fidèles, pratiquants, etc. Donc c'est un des lieux de contact, j'ai envie de dire, entre l'Église et la société dans notre pays. Et donc il est l'objet de beaucoup de soins, parce qu'il fait partie de ces périphéries dont il nous est demandé de prendre soin pour proposer l'Évangile. Alors après, il y a beaucoup de réflexions, etc., pour mettre le curseur au bon endroit et voir ce que proposer l'Évangile dans ce contexte signifie. Alors il y a des débats, des discussions, etc., etc. Mais en tout cas, c'est l'objet de beaucoup de soins de la part du diocèse. J'arrive ici, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, avec une relation entre le diocèse et l'enseignement catholique, marquée par la nécessité, qui est apparue au mois d'avril, de trouver un mode d'organisation pour finir l'année avec le départ du directeur diocésain de l'enseignement catholique. Les chefs d'établissement se sont organisés avec l'aide de l'administrateur du diocèse. Il y a eu le 23 août la journée de rentrée des chefs d'établissement, l'enseignement catholique. Nous avons fait vraiment connaissance et tout le monde a pu exprimer ses attentes, ses frustrations, ses désirs. Et on a pu partir, je pense, sur des bases de confiance renouvelées entre les uns et les autres.
Alors, on entend qu'il y a une attente de la part du diocèse, de votre part en tant qu'évêque vis-à-vis de l'enseignement catholique et vice-versa, que l'enseignement catholique est en attente d'une aide, d'un soutien, d'une écoute de la part du diocèse et plus précisément de l'évêque que vous êtes.
Alors j'interviens, l'évêque du diocèse, à deux niveaux dans l'enseignement catholique. Il y a la direction diocésaine. Et donc l'évêque, relayé par la direction diocésaine de l'enseignement catholique, veille à ce que l'ensemble des écoles catholiques du diocèse, premier degré, second degré, école primaire, collège, lycée et éventuellement supérieur, et les moyens de vivre, se sentent soutenus, qu'une coordination, etc., que au plan administratif, des dossiers soient portés au rectorat, auprès de l'inspecteur d'académie, enfin, etc., etc. Donc le fonctionnement et la direction diocésaine est au service de l'intégralité des établissements. Au plan de l'animation pastorale, c'est aussi une responsabilité de la direction diocésaine de veiller à ce que chaque établissement ait les moyens de déployer une activité pastorale, une proposition pastorale qui fait partie d'une des missions des chefs d'établissement. Mais il faut qu'ils se sentent soutenus de la part de la direction diocésaine, donc sous la responsabilité de l'évêque. Ensuite, il y a chaque établissement catholique est sous une tutelle, qui peut être soit congréganiste, les congrégations souvent fondatrices, ou bien qui ont confié la tutelle spirituelle, charismatique, pastorale de l'école à d'autres, si la congrégation a disparu ou n'avait plus les moyens de l'assurer. Et le diocèse lui-même est aussi tutelle d'un certain nombre d'écoles. Donc on est à deux niveaux, comme tutelle d'un certain nombre d'établissements avec les autres congrégations, les congrégations qui sont aussi tutrices d'un certain nombre d'établissements, et puis la direction générale pour l'ensemble des écoles du diocèse.
Vous avez donc accueilli une nouvelle collaboratrice, Madame Bénédicte André-Jacques, qui a pris ses fonctions le 1er septembre, enfin quelques jours avant la rentrée. Quelle est sa mission exactement? Quel est son périmètre d'action et quelle est sa collaboration au quotidien, j'allais dire, avec vous-même?
Alors, elle est ma collaboratrice directe, l'interlocutrice numéro 1 des établissements à tous les niveaux. Elle est la directrice diocésaine de l'enseignement catholique. Donc, c'est elle qui a la responsabilité de la vie, de l'animation du service de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, donc au service de toutes les écoles, quelles que soient les autorités de tutelle. Bien. Madame André-Jacques est la directrice diocésaine du diocèse d'Auch. Et elle a accepté, l'archevêque d'Auch aussi, évidemment, et on a signé une convention en ce sens, de nous accompagner pendant une année pour justement mettre en place la bonne formule. On a changé 3 fois de direction diocésaine, de directeur diocésain en 5 ans. C'est extrêmement déstabilisant, troublant pour les chefs d'établissement, pour l'ensemble des écoles, etc. Donc on se dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, on est reparti avec une directrice diocésaine pour 1 an, partagée avec le diocèse d'Auch, donc elle est à mi-temps, et elle va faire pas mal d'allers-retours. Elle a en responsabilité, donc en charge, tout ce qui est l'accompagnement administratif, pédagogique des écoles et pastoral. Sauf que pour la dimension pastorale, on la confie, parce qu'elle nous a dit qu'elle ne pourrait pas tout faire en étant à la fois à Auch et à Tarbes, et donc on confie la responsabilité du soutien de l'animation pastorale à la sœur qui, déjà, est responsable de cette animation au niveau du diocèse, sœur Monique.
Sœur Monique Chabrol.
Voilà. Bien, donc, le périmètre de Madame Bénédicte André-Jacques, c'est le fonctionnement de la direction diocésaine, notre accompagnement, l'accompagnement des chefs d'établissement dans toutes les démarches auprès du rectorat, auprès de l'inspection d'académie, pour les postes, pour les décharges d'enseignement, pour tout ça, et de nous aider aussi à mettre en place la bonne formule pour une direction diocésaine pérenne à partir de l'année prochaine.
Donc l'objectif, c'est qu'elle vous aide à trouver la personne idoine pour prendre la suite dans un an.
Exactement, donc d'accompagner la réflexion que nous entamons avec les chefs d'établissement dès la rentrée, dans les toutes prochaines semaines, une date a déjà été prise, avec les OGEC également, pour trouver la bonne formule. 3 hypothèses sont sur la table, soit le recrutement d'un directeur ou d'une directrice classique, on va dire, tel qu'on en a l'habitude, soit une direction partagée, comme on a décidé de le faire provisoirement pour l'année qui vient de commencer, avec le diocèse d'Auch, avec l'inconvénient qu'il y a des distances, il y a une présence moindre dans chacun des 2 diocèses, or une présence plus proche est requise. Et la 3e hypothèse de travail, formulée par l'archevêque d'Auch, c'est une direction qui soit plutôt provinciale auprès du rectorat d'académie à Toulouse, où de nombreux rendez-vous sont requis et nécessaires. Bon. Donc une direction qui serait une direction provinciale, avec des directeurs adjoints au niveau local. Et donc, dans chaque diocèse, Auch, Tarbes, etc. Et ça assurerait une proximité et quelqu'un qui, sur le terrain, fait le travail. Voilà. Il y a ces 3 hypothèses sur la table. Madame André-Jacques va nous aider, nous, évêques, etc., curie diocésaine, chef d'établissement, OGEC, à réfléchir à ces hypothèses, à les chiffrer aussi, et puis déterminer ce qui nous paraît le plus à même d'assurer de la stabilité pour l'enseignement catholique du diocèse, parce qu'on en a besoin pour un moment, quoi, voilà, et pas changer tous les 3 ans.
Donc nous pourrons faire le point dans quelques mois au cours de l'année scolaire quand la réflexion aura avancé.
Les visages de l'Église en Bigorre, Anne-Rose Jankovic.
Alors, rentrée scolaire, oui, bien sûr, mais la rentrée, c'est aussi la rentrée dans les paroisses. Et si vous voulez bien, ce sera le deuxième volet de cet entretien, Monseigneur Mika. La rentrée dans les paroisses se fait progressivement, les paroissiens rentrent de congé, se retrouvent, une vie reprend dans les paroisses des quatre coins du diocèse. C'est le moment aussi où les curés changent parfois de paroisse. Et il y a eu beaucoup de nominations en ce début d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Monseigneur? Seigneur Mika.
Quand j'ai été nommé, en réfléchissant à la manière dont je m'y prendrais pour commencer ma mission, ma nouvelle mission, je me suis rappelé de quelques conseils de sagesse d'anciens, aussi bien à propos des nouveaux curés, justement, que des nouveaux évêques. C'est la première année, on observe, on écoute, on fait connaissance et surtout on touche à rien. Bon. Et comme vous venez de le rappeler, en effet, la liste des nominations faites est en effet importante et beaucoup plus importante que ce que j'aurais souhaité, imaginé, etc. Bon. Donc c'est simplement parce que c'est contraint par la réalité. Un prêtre qui repart dans son pays, un autre qui demande à être mis au repos parce qu'après un accident de santé il y a quelques années, il a tiré sur la corde et maintenant il ne peut plus continuer comme ça, bon, etc. Donc le réel s'est imposé et à partir de là, c'est l'effet domino. Qui mettons à l'endroit où un trou vient d'être creusé par un événement qui n'était pas forcément prévu. Et à partir de là, qui remplace le remplaçant, etc., etc. Et donc, ça donne lieu à une liste de nominations relativement significative. La durée, idéalement, telle qu'aujourd'hui les choses se font, c'est des mandats de 6 ans renouvelables. Voilà. Donc, c'est entre 6 ans et le double, éventuellement. Bon. Ça, c'est l'usage normal, quand tout va bien, etc., etc. Malheureusement, il est régulièrement obligatoire de demander à un curé d'être disponible pour aller ailleurs, alors même qu'il n'est pas arrivé au terme de son mandat juridique, on va dire. Bon. Cela dit, mon souhait, c'est tout de même de ne pas nous contenter avec le Conseil épiscopal de parer aux urgences, aux imprévus, et puis de mettre de trouver dans l'urgence des solutions, et puis etc. Mais de définir le plus possible une vision un peu d'ensemble pour assurer les communautés chrétiennes d'une certaine stabilité, et les prêtres aussi, parce que pour pouvoir s'investir, etc., il faut être soi-même assuré d'une certaine stabilité, quoi. Bon. Donc ça, c'est vraiment l'idéal que l'on vise, et on va enclencher quelque chose qui veut aller dans ce sens dès les prochains jours, l'ensemble urbain de Tarbes et de sa périphérie, des paroisses de la périphérie de Tarbes, donc en gros le doyenné, l'actuel doyenné de Tarbes, donc les ensembles paroissiaux qui constituent ce doyenné, de réunir autour de la table les curés, chaque curé, les autres prêtres, chaque curé avec deux laïcs de la communauté paroissiale, soit membre de l'EAP s'il y a une EAP, soit choisi parmi les paroissiens s'il n'y a pas d'EAP, donc prêtres et deux collaborateurs laïcs, se mettre autour de la table pour, d'ici Noël ou janvier, dessiner une organisation pastorale de l'ensemble urbain et environ de l'agglomération tarbaise, pour pouvoir ensuite, à partir de février-mars, entamer les consultations de confrères, de prêtres, d'EAP, etc., pour faire les nominations et organiser la vie de l'Église catholique sur le Grand Tarbes d'une manière stable, concertée et avec une vision un peu d'ensemble et pas au coup par coup.
Ça veut dire donc dans l'année pastorale une réorganisation du doyenné de Tarbes qui pourra peut-être être un modèle pour les autres doyennés du diocèse dans les années pastorales suivantes ?
Alors chaque doyenné a sa personnalité. Par exemple, hier j'ai passé toute ma journée avec les confrères prêtres et diacres du doyenné de Lannemezan. Le doyenné de Lannemezan, géographiquement, il va de la frontière espagnole à la frontière gersoise. Il traverse nord-sud le département et il en couvre à peu près un tiers en superficie, c'est un doyenné qui a une configuration spécifique. Le doyenné de Tarbes, c'est un doyenné urbain essentiellement, avec des communes rurales de la périphérie de Tarbes, mais qui sont quand même marquées par la dimension urbaine de Tarbes. C'est un doyenné qui a une autre configuration propre. Donc oui, idéalement, c'est de pouvoir assurer à tous une vision d'ensemble, mais qui respecte la réalité locale. C'est pas un modèle qui va s'appliquer partout, mais une méthode qui va s'appliquer partout. Voilà, la méthode, c'est la concertation, prêtre avec des collaborateurs des communautés chrétiennes, et la visée, c'est de trouver une organisation qui puisse être assurée d'une certaine stabilité sur un certain nombre d'années quand même.
Oui, alors avec un enjeu aussi derrière, c'est que quand un curé arrive dans une paroisse, que le curé soit bien dans cette paroisse et que la paroisse aussi soit apte à accueillir correctement le nouveau curé. Ça, c'est important aussi. Chaque curé a sa personnalité, chaque paroisse a ses caractéristiques. Vous pensez à cela quand vous faites les nominations ?
Absolument. C'est pas une gestion administrative des postes où on prend une personne égale une personne et on distribue les personnes comme des petits soldats que l'on mettrait sur une carte à un certain nombre d'endroits sans tenir compte de qui est qui, etc. Mais en fonction de ce qu'on perçoit, de l'identité, de l'histoire d'une communauté chrétienne donnée, la question qu'on se pose, c'est qui voit-on pour être pasteur de cette communauté, pour que ça marche bien, quoi. Voilà. Et après, comme tout le monde, on fait avec le réel, et des uns et des autres, mais avec l'aide de Dieu, l'Église fait comme ça depuis 2000 ans, et en gros, ça marche pas si mal, quoi. Voilà. Alors, dimanche dernier, j'ai installé, comme on dit officiellement, mon premier nouveau curé. Et dans l'homélie de la messe d'installation, je me suis adressé à lui en lui confiant la communauté chrétienne qui compose cet ensemble paroissial. Puis je me suis adressé à l'assemblée en lui confiant le pasteur qui était installé pour être leur curé. Voilà. Je crois que ça marche dans les deux sens. Le prêtre prend soin de ses paroissiens, et les paroissiens prennent soin de leur pasteur. Et c'est ensemble, tous disciples du même Jésus, tous investis de la même mission, faire que l'Église soit témoin de l'Évangile et missionnaire dans le monde qui est le nôtre, dans la région qui est la nôtre, dans le pays qui est là, les personnes qui le constituent. Bon, être ensemble l'Église qui témoigne de l'Évangile, mais pour que l'Église soit l'Église telle que le Christ l'a fondée et confiée aux apôtres, eh bien, il y a des vocations distinctes, des missions distinctes, mais chacun prend soin de ses frères et ça marche dans tous les sens, quoi.
Voilà, je voulais vous demander, Monseigneur Mika, pour conclure cet entretien, votre conseil pour que la rentrée dans les paroisses se passe bien. Et en fait, c'est ça, votre conseil, c'est qu'on prenne soin les uns des autres, les paroissiens de leur curé et le curé des paroissiens.
Et se réjouir, je disais ça ces jours, avant-hier, je rencontrais l'Action catholique pour l'enfance ici à la maison diocésaine à Tarbes, et je leur disais que je me réjouis que ce qu'ils sont, leur histoire, leur sensibilité, les fait être en contact avec des enfants, des familles, que d'autres réalités missionnaires de notre diocèse ne peuvent pas contacter, parce que par culture, c'est comme ça, et que je m'en réjouis, et que je demande aux autres de se réjouir qu'ils existent pour être témoins d'Évangile dans ce lieu-là, de même que je leur demande à eux de se réjouir que d'autres soient en contact avec d'autres personnes qu'eux ne rejoindront jamais. Et l'Église catholique, précisément, c'est cela. Aucune de ces réalités, de ces mouvements, de ces associations, de ces services, n'épuise à lui seul ou à elle seule la totalité de ce qu'est l'Église catholique, ni ne concentre l'intégralité ou les compétences pour rejoindre toutes les populations à qui l'Évangile est destiné. Et c'est la somme de ces intuitions, de ces charismes, de ces personnes, qui permet à l'Église, finalement, d'être en contact avec toute la population. Et il ne faut pas vivre ça comme une juxtaposition tolérée des uns et des autres, et puis chacun vit ses affaires, mais se réjouir que les autres soient là, et ensemble, avoir conscience qu'on est des instruments différents, mais qui jouent la même partition dans un orchestre pluriel. Voilà. Et ça, c'est mon ambition, et puis ma joie, vraiment, d'être attelé à ce service-là, quoi. Faire cette communion de l'Église catholique, précisément, qui est une Église diverse, multiple, plurielle. Et depuis l'observatoire nouveau qui est le mien depuis que je suis évêque, je me réjouis de découvrir toute cette énergie, tout cet engagement, le cœur des uns et des autres qui est sincèrement donné à cette mission. Et je voudrais partager ça, que chacun acquiert cette même vision d'ensemble, cette même joie de la pluralité de notre diocèse qui est vraiment très très impressionnante.
Voilà, une pluralité de notre diocèse que nous pourrons palper et expérimenter lors du pèlerinage diocésain. Mais nous en reparlerons dans une prochaine chronique avec vous, Monseigneur Mika. Merci beaucoup.
Merci et bonne semaine.